Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.
Franck Ferrand sur Europe 1, Au cœur de l'histoire.
Et c'est une émission spéciale que nous propose aujourd'hui sur Europe 1 Franck Ferrand. Pas de récit, mais une promenade exploratrice à la recherche des petits secrets de Paris. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Paris n'appartient pas aux Parisiens, ni même aux Français. Notre belle capitale est à tous ceux qui savent l'admirer et la comprendre. Elle n'est pas pour rien la première destination touristique du monde.
Et pour nous accompagner dans cette chasse aux merveilles cachées de la capitale, vous avez fait appel à votre complice en télévision.
Et oui, Clémentine Portier-Kaltenbach, qui publie en effet chez Vuibert un recueil de ses chroniques d'anecdotes parisiennes. Cela s'appelle « Secrets de Paris », tout un programme.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Disons-le, c'est un acte de contrition que j'aimerais faire aujourd'hui, moi qui passe mes semaines à soupirer contre les embouteillages parisiens et à pester contre le stress et l'agressivité de la capitale. Eh bien, j'en finirai presque parfois par oublier combien Paris est une belle ville, belle non seulement dans ses perspectives d'ensemble et dans ses vastes architectures, mais belle aussi dans le moindre de ses détails. Car pour un amoureux d'histoire, disons-le, Paris est un paradis. Pas un square, pas une façade, pas un pas de porte qui ne conserve le souvenir d'un événement grand ou petit laissé par 20 siècles de tribulations urbaines. Où se trouvent les plus vieux arbres de la capitale, que contient la girouette de Notre-Dame, parce qu'il y a une girouette sur Notre-Dame, figurez-vous. À quoi correspondait le métier de barbier étuviste et celui de chaisière? Voilà quelques-unes des nombreuses, des innombrables questions auxquelles nous allons essayer de répondre cet après-midi en compagnie de Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour Franck, bonjour à tous.
Merci beaucoup d'avoir recueilli toutes ces vérités, tous ces secrets, tous ces mystères sur Paris. Je vous reconnais bien là dans ce livre qui nous assène 3 scoops à la page, des scoops vieux de 3 siècles comme dit l'un des slogans d'Europe 1. Alors, répondons aux questions que j'ai déjà posées si vous voulez. Les plus vieux arbres d'abord de la capitale.
Les plus vieux arbres, je crois que là c'est une information relativement connue des vieux parisiens. Il y a évidemment le faux acacia qui se trouve dans le square Viviani devant Notre-Dame. Alors cet arbre est très touchant d'ailleurs, moi j'ai un sentiment de quasiment familial vis-à-vis de cet arbre et ne passe jamais devant ce square, devant Notre-Dame, sans aller poser ma main sur cet arbre, car il a été planté par Robin, qui a été le jardinier d'un certain nombre de nos rois, dont Henri IV, et à partir d'une souche qui lui avait été donnée par un botaniste anglais. Et il l'a planté à cet endroit. Et il est toujours debout. Alors, il est évidemment soutenu par une espèce de structure en béton assez laide, mais
il tient le coup. Ce sont ses béquilles.
Il a plus de 400 ans, cet arbre. Donc, voyez-vous, je pense que chaque Parisien devrait au moins une fois par an aller dans ce petit square et voir cet arbre qui a vu tant d'événements historiques de l'histoire de France et qui tôt ou tard malheureusement tombera de sa belle mort, je pense.
Il y a un arbre parisien très célèbre aussi, c'est l'orme qui se trouve devant l'église Saint-Gervais-Saint-Protais. Cet orme qui, paraît-il, possède des vertus magiques. Alors, ce que vous nous apprenez, c'est une déception dans votre livre, c'est que cet orme n'est pas l'orme d'origine. Il a été remplacé en 1910,
mais il y a un certain nombre d'arbres dont on ne soupçonne pas le caractère historique. Il y a ce fameux orme, naturellement. Il y avait le figuier qui était planté devant l'hôtel particulier de la reine Margot. Et alors, comme ce figuier gênait les circonvolutions et la circulation de son carrosse, eh bien, elle l'a fait couper. Mais si vous allez aujourd'hui devant l'hôtel de Sens, eh bien, il y a des figuiers et la rue s'appelle la rue des figuiers. De la même manière, il y a eu, là où aujourd'hui se trouve une statue de Berlioz, il y avait un saule pleureur qui avait été planté là à partir d'un sillon, d'un rejet, d'un rhizome. Je ne suis pas botaniste, donc je ne connais pas.
Une bouture, disons,
plus simplement, d'un saule de la vallée des géraniums à Sainte-Hélène, et qui avait été planté à cet endroit-là.
Le saule qui abritait la tombe de l'empereur, on l'avait replanté là.
Exactement.
Il n'existe plus non plus.
Il n'existe plus non plus. Par contre, dernier élément sur des arbres, il y a au jardin du Luxembourg, il y a des marronniers qui ont été plantés à partir de marrons qui ont été ramassés à Monticello dans la propriété de Jefferson, un des premiers présidents américains qui aimait tendrement Paris. Il y a longuement séjourné. Eh bien, on a en hommage à Jefferson qui a voulu une maison identique à l'hôtel de Salm, le palais de la Légion d'honneur près du musée d'Orsay. Eh bien, on a planté ces marrons qui viennent de Virginie.
Vous nous apprenez à propos des marronniers et notamment d'un certain marronnier parisien, le marronnier du 20 mars. Vous nous apprenez que c'est l'origine de l'expression qu'on utilise pour parler des articles qui reviennent sans cesse dans la presse. Quand on dit « oh là là, ça c'est un marronnier ».
Le régime au mois de février, oui, l'immobilier, les francs-maçons et leur pouvoir, c'est le marronnier en presse. Et oui, ça vient de ce fameux marronnier au pied duquel on avait mis en terre un certain nombre de gardes suisses de Louis XVI au moment de l'envahissement des Tuileries par les sans-culottes en 92. Et on s'est rendu compte que ce marronnier fleurissait avant les autres. Alors on l'a d'abord appelé le marronnier des Suisses. Et puis finalement, quelques temps plus tard, passent les régimes politiques et il fleurissait toujours le premier et au moment de la naissance de l'aiglon. 20 mars 1811, mais aussi au moment du retour de l'île d'Elbe de Napoléon. Donc on s'est mis à l'appeler, à appeler ce marronnier le marronnier impérial, le marronnier de Napoléon. Et donc il a été approprié par les Bonapartistes, ce marronnier. Et c'est de là, du fait qu'il refleurissait avant les autres, en effet,
que
vient l'expression.
Tous les ans, dans les gazettes de l'époque, on disait « Ah, ça y est, le marronnier vient de fleurir. » Donc ça revenait tout le temps, d'où cette expression.
Le marronnier du 20 mars, ça vient d'un marronnier parisien.
L'un des tout premiers marronniers plantés en France et le premier à Paris, c'était dans la propriété de Boileau, à une époque où sa propriété n'était pas dans Paris.
Oui,
du reste.
Ça, c'est vraiment une histoire touchante parce que Boileau habitait rue du Cloître Notre-Dame et il était asthmatique. Et il s'est dit, bon, si je veux mieux respirer qu'en plein Paris, il faut que j'émigre. Et donc, il est parti à Auteuil, dans l'actuelle rue Boileau, dans le 16e arrondissement, qui est quand même très exactement de nos jours en plein Paris. Et c'est là que son cher jardinier Antoine Riquier a planté un des tout premiers marronniers des Indes de Paris. Depuis, c'est une espèce qui a fait florès, on en voit absolument partout.
Ce qui est très beau, c'est que tous les noms dans Paris, je pense aux noms de rue tout simplement, conservent le souvenir de tout ce passé comme une sorte de millefeuille archéologique et historique. Il y a des strates d'histoire, de mémoire, de souvenirs qui ressurgissent tantôt dans un ornement de façade, tantôt donc dans un nom de rue. Vous parliez de la rue du Figuier tout à l'heure. On a la rue Beautreilly, la rue de la Cerisaie, qui évoque une époque où il y avait des treillis et des cerisaies
dans
Paris.
Vous savez, ce qui est touchant, quand on a une connaissance assez intime de Paris, c'est d'abord de pouvoir voir ce qui précédait un monument. Par exemple, sous l'Opéra, il y avait une propriété maraîchère avec 600 pieds d'artichauts et des arbres fruitiers. Et je pense à ça, moi je trouve ça absolument jubilatoire. Et quand on a cette même connaissance intime, on peut voir dans Paris se rencontrer, se percuter des personnages de l'histoire de façon totalement anachronique. Mais moi, je vois tout ça et j'aimerais vraiment à la fois que les Parisiens, mais aussi tous les Français, parce que Paris s'identifie à l'histoire de France et Paris est notre capitale à tous. Et je crois que tous, on peut l'aimer tendrement et se dire qu'il y a dans Paris matière à occuper non pas une vie entière, peut-être malgré tout, mais ce qui est beau une fois, les beaux dix. Vous voyez, moi, je suis rentrée, dès que je peux, je rentre à la conciergerie, je rentre dans Notre-Dame. Je ne vais pas faire des courses sans rentrer dans le musée Carnavalet si je suis près de la place des Vosges. Ça, je trouve qu'un Parisien doit faire ça. Un Parisien et un Français a une responsabilité particulière vis-à-vis de cette ville qui a un passé extraordinaire.
C'est une petite discipline qu'on peut se donner et qui est toujours payée au centuple. On est toujours très heureusement récompensé des petites initiatives qu'on peut avoir comme ça. Vous êtes dans Paris, vous marchez, vous voyez un joli Porsche, vous devinez dans les fins fonds de ce Porsche cache un petit jardin ou même une cour, n'hésitez pas à entrer, à les voir. Généralement, les résidents sont assez placides sur le sujet et vous découvrirez forcément des merveilles. Et pour peu qu'ensuite vous cherchiez, comme sait le faire Clémentine, eh bien vous découvrirez aussi souvent des histoires étonnantes. Alors, chose promise, chose due, j'ai posé 2-3 questions en tout début d'émission. À quoi correspondait ce métier de barbier étuviste?
Ah, ben ça, c'est celui qui a créé les bains à Paris. Il s'appelait Poitevin. Ce sont en réalité sont presque les premières piscines, pour ainsi dire, parce que les étuves existent au Moyen-Âge. On peut
bien
aller
sûr,
se baigner.
Oui.
Les bains sont collectifs.
Les bains sont
voluptueux aussi. On y va à la fois pour s'y décrasser et pour y croiser des dames. Donc l'église n'est pas forcément toujours très, très, très favorable. Et puis il y a eu une sorte de parenthèse dans l'hygiène parisienne, car les épidémies de peste, notamment, ont rendu l'eau dangereuse. Et il a fallu attendre le 18e pour que l'on recrée à nouveau ces bains et ces bains collectifs. Louis-Philippe raconte comment il allait au bain chinois apprendre à nager à ses fils. Et il y a une chose amusante à propos de ces bains également, c'est qu'un des plus anciens bains parisiens était les bains d'Oligny. Or, au moment du transfert des cendres de l'empereur depuis Sainte-Hélène jusqu'à Paris en 1840, les grands architectes chéris de Napoléon Ier avaient imaginé une barque cénotaphe.
Percier et Fontaine,
merci Franck, pour porter le catafalque de l'empereur. Et cette barque, elle a été rachetée par les d'Oligny qui en ont fait une sorte de pédiluve. Enfin, ça a été un élément de
leur
piscine.
Mais on a connu les bains d'Oligny sur la Seine, oui, jusqu'il n'y a pas si longtemps. Ils ont coulé en 86 ou 7, je crois.
Vous avez raison, Franck. Nous les avons connus, hélas.
Eh oui, malheureusement, ça ne rajeunit personne, cette histoire. Les chaisières, on les a connues jusqu'en 1974,
là encore,
les
voilà,
chaisières.
J'ai essayé de penser à serait constitué un trésor de guerre d'un petit Parisien dans son enfance.
Ah, c'est très bien ce chapitre.
Et donc, j'ai pensé à différentes choses. Alors, je citais la rivière enchantée du jardin d'acclimatation. On pouvait se faire prendre en photo en noir et blanc. Les petits cochons de pain d'épices de la foire du trône, ça existe encore. Mais qui sait que c'est une référence aux cochons des moines de Saint-Antoine qui avaient l'autorisation de faire gyrovaguer leur porc qui servait en gros des gouttiers pour la ville. Eh bien, les pains d'épices de la foire du trône en forme de cochon sont directement hérités de cette tradition. Qu'y a-t-il encore les couleurs des tickets de métro qui ont varié pas avec le temps? Les chaisières, naturellement, c'est un métier qui a disparu. Alors, faut-il s'en attrister? Non, parce que la mélancolie, c'est doux également. C'est pas forcément cafardeux.
Alors, donc, les chaisières?
Alors, les chaisières, c'était des petites dames dont l'emploi était, dans les jardins publics, de vous acquitter d'une petite somme très modeste. Hein, mais il me semble, Franck, que ça devait être peut-être 20 ou 50 centimes.
Hein, centimes.
Peut-être 50 centimes pour avoir l'autorisation de vous asseoir sur cette chaise. Et cela contribue à la fois à leur salaire et à l'entretien des chaises, on peut le supposer.
Dans mon petit lexique Clémentine Portier-Kaltenbach, je vois que gyrovaguer veut dire déambuler. C'est formidable. Il me restait une question quand même. Hein. C'était la girouette de Notre-Dame. On y viendra tout à l'heure.
D'alcool.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Franck, qui accompagné de Clémentine Portier-Kaltenbach, nous servent de guide aujourd'hui sur Europe 1 pour une promenade au cœur de Paris et de ses petits secrets.
Il y a un nom, un grand nom qu'on ne prononce pas gratuitement à ce micro sur Europe 1, Clémentine, c'est celui de Molière. Vous nous parlez, parce que évidemment l'un de mes grands sujets c'est cette affaire Corneille-Molière dont j'ai rebattu les oreilles de nos auditeurs. Vous nous parlez, vous, non pas de là, mais des maisons natales,
oui,
de Molière.
Oui, 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 ça fait partie des petites drôleries de la capitale. C'est que Alexandre Lenoir...
Il faut dire en deux mots qui est Alexandre
Lenoir. Alexandre
Lenoir
a été le directeur d'un éphémère musée des monuments français créé sous la Révolution française. Donc il allait absolument partout. Dès qu'on ouvrait un cercueil, il se présentait. Dès qu'il s'agissait de choisir des œuvres d'art à sauver ou à brûler, car vous savez aussi bien que moi, Franck, que la Révolution a fait florès d'autodafés à la fois d'œuvres religieuses en bois qui lui servaient à chauffer son musée, mais aussi de tapisseries magnifiques qui, pour avoir porté des fleurs de lys, ont été détruites impitoyablement. Donc Alexandre Lenoir se baladait dans Paris, visitait les monuments, les églises, en sauvait certains, en sacrifiait d'autres. Et là,
c'est un antiquaire au sens noble du mot, hein, au sens public du mot.
Oui, parce que vous savez, il a notamment recouvert d'une sorte d'enduit ou de peinture ou d'après un certain nombre de tombeaux qui était est en marbre pour les sauver de la destruction, en faisant croire que c'était du stuc, que ça n'avait aucune valeur. Et je me demande s'il n'a pas sauvé comme ça le beau tombeau de Girardin de Richelieu à la Sorbonne. Enfin, pour en revenir à Molière, il a par erreur estampillé une fausse maison natale de Molière. Molière est né dans une maison qu'on appelait la maison des singes, parce qu'il y avait une sorte de mât, un mât de cocaïne, non, sur lequel était sculpté un certain nombre de singes. Eh bien, lui, il a estampillé rue du Pont-Neuf, dans le prolongement du Pont-Neuf, tout à fait, une maison natale de Molière. Alors, le propriétaire, très heureux de cette gratification, mais ça, c'était un hôtelier qui s'est dit,
c'est formidable pour ses affaires.
Mon hôtel se trouve dans la maison natale de Molière. Il a fait faire un joli buste de Molière. Or, la date de naissance qui est indiquée sur cette plaque est fausse. Et Molière n'est pas du tout né à cet endroit.
Il est même né sur l'autre rive de
Mauvaise pioche. Mais le problème, c'est que il y a bien plus tard, c'est Wagner qui arrive à Paris et son premier logement se trouve dans cet hôtel. Et il écrit à sa femme en lui disant « Oh, et tu sais, c'est très bon signe parce que j'ai choisi tout à fait au hasard cet hôtel et il se trouve être la maison natale de Molière. Je suis sûr que ça va me porter bonheur. » Or, les séjours parisiens de Wagner ont été des catastrophes successives. Donc, la maison natale de Molière, qui n'était pas la bonne, non, ne lui a pas porté bonheur. En tout cas, ce qui est amusant, c'est que là où a vécu Molière enfant, eh bien, vivait non loin de là Cyrano de Bergerac. Et donc, certainement, ils ont usé leur fond de culotte sur les mêmes bancs dans les environs de chez eux.
Ils n'ont pu que se croiser, ça c'est sûr. Il y a un autre grand artiste qui est venu, d'ailleurs, à deux reprises à Paris, c'est Mozart. Et Mozart, notamment, lors de son premier séjour, réside à l'hôtel de Beauvais.
Mais cet hôtel de Beauvais, c'est un des plus jolis hôtels particuliers du Marais pour nos auditeurs qui ne sont pas parisiens. Ça se trouve pas loin de la place des Vosges, près de la rue de Rivoli. Voilà, c'est vraiment l'un des vieux quartiers de Paris.
Tout près de Saint-Gervais dont je parlais tout à l'heure.
Exactement. Et bien, ce petit hôtel particulier, il a été créé dans des conditions très particulières. Il se trouve que Anne d'Autriche, la maman de Louis XIV, voulait s'assurer que son fils aurait plus de goût pour les dames que son papa n'en avait, car elle-même avait dû attendre...
Ce qui n'était pas très difficile.
2000 nuits, soit quasiment 5 ans avant que Louis XIII ne lui rende une première visite, poussé par son ami le duc de Luynes, qui lui a dit cette fois, mon coco, il faut y aller, il faut un héritier pour le trône. Donc voilà. Alors, Louis XIV, Dieu donné, est né au bout de 23 ans de mariage, on le sait. Donc Anne d'Autriche était en joie et voulant s'assurer donc, que son garçon aurait plus de goût pour la gent féminine, eh bien, lui a mis dans les pattes sa chambrière, Catherine Bélier.
Il fallait le dépuceler.
En effet, et Catherine Bélier était une de ses intimes, puisqu'elle lui administrait ses clistères, ce qui est en effet de nature à créer un lien tout à fait privilégié. Et on dit, alors les mémoires du temps prétendent qu'elle était laide, lubrique et borgne. Cato la borgnesse, l'appelait-on cette dame. Donc elle avait plus.
Dans Louis enfant roi, on la voit très
bien.
Voilà,
absolument, elle lui saute dessus dans la paille, oui. Donc elle avait probablement près de 45 ans, le jeune Louis XIV en avait 14 ou 15. Bon, l'affaire est faite. Et alors, par la grâce de cet exploit, eh bien, elle devient baronne, son père devient capitaine des chasses royales, il avait quand même peu à voir à l'affaire, et donc son époux qui vendait des rubans au palais royal devient également baron. Elle a l'autorisation de prendre des pierres sur le chantier du Louvre et c'est Lepautre, l'architecte du roi en personne, qui va venir travailler à son hôtel particulier. Elle finira un petit peu dans la débine, la malheureuse Cato la borgnesse, elle devra louer des chambres dans son hôtel particulier ravissant, où son souvenir est évoqué par une alternance de tête de lion et de tête de bélier qui font allusion donc à Catherine Bélier. Mais le souvenir, en effet, qui est évoqué dans ce petit hôtel particulier, eh bien, c'est celui de ce petit garçon qui avait 7 ans au moment de son premier séjour à Paris. Oui, mais en effet, il s'appelait Wolfgang Amadeus Mozart.
Donc il était là avec Nan Earl, sa sœur,
exactement,
et son père,
en
Léopold.
En effet, Franck, et c'était la légation autrichienne à ce moment-là. Voilà pourquoi il a logé dans l'hôtel ex de Cato la borgnesse. Mais quand je vous parlais tout à l'heure de ces percutages, c'est très exactement ça.
Cet hôtel de la rue François Millon qui a été entièrement restauré,
c'est une merveille. Là, vous le disiez tout à l'heure, Paris, c'est aussi le secret de ses cours. Et l'hôtel de Beauvais trouvais, c'est une petite merveille. Il faut rentrer dans la cour, ne pas hésiter et voir cela.
Et puisque nous parlons d'hôtels particuliers, il faut signaler l'exposition qui se tient en ce moment même à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Alexandre Gady était venu nous en parler à ce micro. Cette exposition qui se tient jusqu'au 19 février prochain et qui parle de ce phénomène des hôtels particuliers, parce que ça, c'est quand même, si Paris a secrété un type d'architecture qu'on ne retrouve sous cette forme-là nulle part ailleurs, c'est bien l'hôtel particulier qui est une sorte de palais de ville avec son corps de logis central, avec sa cour, ses communs et puis parfois ses basses-cours et derrière son grand jardin. L'hôtel particulier, il y en avait comme ça plus de 500 à Paris.
Alors là, voyez-vous, là, Franck, vous me l'apprenez.
C'était
qu'il y avait 500, c'est plus de 500 cimetières d'église. Ça, le 500, c'est à ça que ça faisait plutôt référence.
On sait que les cimetières vous fascinent. D'ailleurs, on va y venir tout à l'heure parce que vous nous parlez de reliques profanes tout à fait extraordinaires. Quand on écrit comme ça, quand on va à la recherche d'un certain nombre de secrets plus ou moins oubliés d'une ville, quels sont les critères, Clémentine ?
Le temps, Franck, je pense, et c'est le temps qui est précieux, parce que évidemment, je n'aurais certainement pas pu produire ce livre en quelques mois. C'est le fruit de longues années de chroniques au Nouvel Observateur, et le temps est extrêmement précieux. Et les perles que je recherche, elles ne peuvent être trouvées qu'au terme d'un long glanage au cours duquel il y a beaucoup d'informations perdues ou inutiles et où on n'en retient que quelques-unes. Mais je pense qu'à chaque fois, j'ai l'intuition de ce qui me servira plus tard. Je mets de côté, j'ai des petits carnets, je prends des notes dans tous les sens et je réutilise progressivement.
Et parfois, une perle peut en cacher une autre, justement. On croit connaître sur un lieu donné une chose un peu, une information un peu particulière. On se rend compte qu'il y en a d'autres et d'autres encore. C'est ça qui est étonnant à Paris, c'est l'incroyable foisonnement de ces vestiges, de ces lieux de mémoire, car ce sont des lieux de mémoire finalement.
Ah mais ça a presque quelque chose de, comment dire, d'écrasant aussi, parce que je peux jamais m'empêcher de voir se jouer sous mes yeux tous les événements en même temps, et par moments je me dis mais Clémentine, il faut être aussi dans le présent. C'est important. Mais cela dit, voyez, je raconte souvent qu'il y a une cérémonie à laquelle faut absolument assister une fois dans sa vie. C'est extrêmement touchant, qu'on soit croyant ou pas. C'est aller à Notre-Dame les premiers vendredis du mois, et là on peut assister à la présentation par des chevaliers du Saint-Sépulcre en habit, avec leur cape blanche à croix rouge, avec des dames qui portent des mantilles, et il y a une messe au cours de laquelle est présentée à l'adoration des croyants la couronne d'épines du Christ achetée par Saint Louis. Et lorsque vous assistez à cette messe, vous sentez en même temps les trépidations du RER qui passe de l'autre côté de la Seine, et oui, le CAC 40 continue à suivre son cours en effet, mais ces espèces de bouffées de passé qui reviennent dans notre présent et qui sont le fruit, la continuation d'une tradition ancestrale au cours de laquelle les Parisiens allaient processionner derrière cet objet. Moi, je trouve ça extrêmement touchant, et je pense que l'on peut être un homme de son temps et à la fois être sensible à ces moments de passé qui surgissent.
Ce sont des raccourcis de l'histoire. Les secrets de Paris. Vous publiez ça à la librairie Vuibert avec une très belle couverture qui nous montre un certain nombre des plus extravagants pavillons de l'exposition universelle de 1900.
Cœur de l'histoire.
Sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne.
Le timbre de Maurice Chevalier sur Europe 1 avec Paris sera toujours Paris, car nous le le voile cet après-midi sur Europe 1 sur les nouveaux mystères dont recèle la capitale en compagnie de Franck et de son invité, une amoureuse, une connaisseuse de notre belle capitale.
Vous connaissez la prédilection de Clémentine Portier-Kaltenbach pour tous les petits détails et les anecdotes savoureuses. Elle aime chercher la petite bête. Eh bien, moi, je vais lui demander d'aller chercher des grosses bêtes, là, maintenant. Et d'abord, la plus grosse qu'ait jamais connue Paris, ce fameux éléphant de la place de la Bastille.
Ah, encore un des projets. Ça, c'est aussi très amusant dans Paris de voir tous les projets qu'on a envisagés et qui n'ont pas vu le jour. Hein. Alors, cet éléphant, c'était un projet napoléonien à l'origine. Hein. Il y a eu toutes sortes de choses sur cette place de la Bastille, puisque à partir du moment où elle a été détruite.
Bah oui, on a rasé la forteresse
et
après. Très
rapidement d'ailleurs, parce que le chantier a été confié à Pierre-François Palois. Il a démoli ça en quelques mois. Hein. On a mis entre 600 et 900 ouvriers, je crois, à la démolition.
Et
de
avec,
la Bastille.
Avec les pierres de la Bastille, on a
fait le pont
de la Concorde.
De la Concorde,
et puis on a également fait des maquettes.
Oui.
Des maquettes numérotées de la Bastille elle-même que les bons républicains s'arrachaient après.
Alors il y en avait 83, une pour chaque département. Et j'incite tous vos auditeurs, Franck, à se rendre au musée Carnavalet où il y a encore un exemplaire de cette Bastille créée dans des pierres de la Bastille. Ils pourront d'ailleurs en profiter pour voir l'échelle de corde avec laquelle s'est échappé Latude, le pot à barbe de Robespierre, les pistolets de Saint-Just et toutes sortes de choses tout aussi intéressantes.
Alors sur cette place qui avait été vidée, on avait installé une fontaine pas de très bon goût,
c'était une pseudo-déesse dont les mamelles versaient de l'eau, enfin c'était la nation nourricière en somme.
Un petit côté égyptien.
Ah oui, apparemment, c'était une Isis, sans doute. Apparemment, ce monument n'a pas eu l'heure de plaire à l'empereur, qui a donc commandé un éléphant monumental dont on a entrepris de faire une maquette pour donner un petit peu une idée de ce à quoi ça ressemblerait finalement. Et alors, bon, les choses étant ce qu'elles sont, entre l'Empire et la Restauration, il y a eu beaucoup de mouvements, y compris dans les monuments parisiens. Eh bien, ce projet n'a jamais vu le jour, mais l'éléphant est resté là un certain temps. Et quand Victor Hugo écrit Les Misérables, eh bien, il raconte que c'était devenu une espèce de d'épave dévorée de l'intérieur par des rats, mais que c'était la cachette de prédilection de Gavroche qui venait s'y réfugier.
Un autre très gros animal, pas loin de là d'ailleurs, et les visiteurs de l'exposition Les Sciences à Versailles ont pu le voir au château de Versailles il n'y a pas très longtemps, on le voit sinon plus classiquement dans la grande galerie de l'évolution du Muséum National d'Histoire Naturelle, c'est le fameux rhinocéros de Louis XV, qu'on appelait Pralin.
Le malheureux Pralin, alors personne ne fait attention à lui dans ses... Parce qu'il est noyé au milieu des mammouths et des dinosaures. Qui voulez-vous qui aille s'intéresser à un malheureux rhinocéros? Et pourtant, celui-là, non seulement a un prénom, vous l'avez dit, Franck, mais en plus de ça, il a une histoire. Car Louis XV, en effet, rêvait d'avoir un rhinocéros. Et le gouverneur de Chandernagore, qui voulait être dans les petits papiers de Louis XV, probablement, lui expédie ce rhinocéros sur un bateau qui portait en hommage au duc de Pralin le nom de Pralin. On a donc surnommé ainsi ce rhinocéros. Il arrive à Paris, il va couler des jours relativement paisibles et heureux à la ménagerie du château de Versailles, mais la Révolution française intervient, les sans-culottes pénètrent dans le parc, et alors ce malheureux rhinocéros Pralin... Il fait l'objet d'un attentat politique parce qu'il est sabré.
C'est incroyable cette histoire.
Il est sabré par un sans-culotte
enragé. Faut quand même qu'il soit... Bah oui, un sauvage quand même.
Et alors, m'a dit le paléontologue que j'ai rencontré au Muséum d'Histoire Naturelle, il m'a dit, vous voyez Clémentine, eh bien ce rhinocéros n'est pas mort de ses blessures puisqu'on voit bien que la plaie, l'os s'est recalcifié, donc il a survécu à cet attentat révolutionnaire. Mais le malheureux, il est mort, il est mort de sa belle mort finalement, faute d'aller. Alimentation, on l'a laissé à l'abandon dans cette ménagerie dont plus personne ne s'occupait, la famille royale étant à ce moment-là aux Tuileries à Paris. Donc il meurt, le malheureux animal, et on l'emmène au Jardin des Plantes. Mais là, il était mort depuis 2 ou 3 jours, donc il avait gonflé. Et les aides de Daubenton, qui est le grand mamamouchi des lieux à ce moment-là, il prend ses mesures. Mais l'animal ayant gonflé, il prend des mesures disproportionnées. Mais ces subalternes, n'osant pas contredire les mesures du maître, eh bien, vont produire un animal empaillé bien trop gros. Et c'est comme ça.
C'est ce qui lui donne ce côté complètement boursouflé.
Ah oui, alors
hein,
si
bizarre,
vous avez la curiosité d'aller voir les deux, vous allez voir le squelette qui lui est tout à fait normal, mais regardez bien la blessure au sabre du sans-culotte 92 et puis aller voir l'animal empaillé qui est bien trop gros. Et alors je constatais tristement que cet animal avait été victime à la fois de la Révolution française et du respect de la hiérarchie, ce qui est quand même une très triste fin.
Oui, une triste fin, mais quelque chose qui dans notre pays ne nous surprendra pas outre mesure. Alors, pourquoi s'appelait-il Pralin d'ailleurs
à cause du duc de Pralin, c'est le bâtiment sur lequel il est rentré de Chandernagore. C'était le nom du bateau tout simplement.
Et il y a un autre gros animal dont on a beaucoup parlé en France en 1827, c'était Zarafa, ah, oui. La fameuse girafe offerte par le sultan du Caire à Charles X. Elle venait du Soudan, elle venait de Khartoum, cette pauvre girafe.
Elle voyageait avec girafe. Des vaches.
Oui, elle a fait quand même, je lisais ça dans Le Parisien hier, elle a fait 880 kilomètres à pied depuis Marseille.
Oh, mais quel succès elle a eu, on lui lançait des fleurs,
41
la
jours
entière.
De gloire.
Oh oui, écoutez. Puis alors, en plus, là, sur ce coup-là, on a été excellent parce qu'il y avait en fait deux girafes qui étaient proposées aux Anglais et aux Français. Et alors, les Français ont choisi celle qui semblait en meilleure forme et on a laissé l'autre aux Anglais, la malheureuse. Alors, elle a trépassé en chemin.
Alors que celle-ci, elle a encore vécu très longtemps puisqu'elle n'est morte qu'en 1844. Donc, elle a coulé des jours paisibles au Jardin des Plantes. Et pour le seul été 1827, elle a reçu la visite, figurez-vous, de plus de 600 000 personnes. C'est dire si les Parisiens ont toujours été fascinés.
Mais
par...
est-ce que vous ne croyez pas, Franck, que si on nous annonçait un animal étrange venu d'ailleurs et quelques planètes bizarres, on se précipiterait aussi.
Tout simplement, quand on va avoir les premiers martiens, les premiers extraterrestres à voir, en vrai, à mon avis, il y aura de grandes, grandes files devant le lieu d'exposition. La girafe Zarafa fait en ce moment l'objet d'une exposition au cabinet d'histoire du Jardin des Plantes, c'est 57 rue Georges Cuvier, ça s'imposait évidemment dans le 5e arrondissement, et l'exposition a lieu jusqu'au 30 avril. Et je rappelle le titre, Clémentine, de votre livre des merveilles, à vous, de cette espèce de recueil incroyable et foisonnant d'anecdotes inouïes sur Paris, ça s'appelle Les secrets de Paris, et c'est publié chez Vuibert.
Au cœur de l'histoire.
Panam, 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 chantez Edith Piaf, vous l'avez compris sur Europe 1, Franck et son avis. Nous parle de la ville lumière.
Paris est non seulement la première destination touristique du monde, mais elle est aussi le plus grand plateau de cinéma à ciel ouvert, puisqu'il faut savoir qu'elle a le record, et de très loin d'ailleurs, de la ville qui accueille le plus de tournages de films non seulement français, mais internationaux. Il y a des tournages en permanence.
900
par an, hein, c'est absolument invraisemblable. Et parmi les films qui ont été en grande partie tournés à Paris, et évidemment, il y a le célèbre Da Vinci Code, qui a fait de l'église Saint-Sulpice un lieu mondialement célèbre. Et là, ça vous énerve,
oh,
forcément.
Oui, ça m'énerve. Ce que je trouve très drôle, c'est que le réalisateur du Da Vinci Code voulait tourner des scènes dans Saint-Sulpice. Et or, quand Delacroix a passé 7 ans à Saint-Sulpice, où il s'est escrimé à peindre la chapelle des Saints Anges, donc il venait là pour réaliser une œuvre religieuse. Il en avait appelé à Napoléon III pour avoir l'autorisation de peindre pendant la messe, et ça lui a été refusé strictement. Donc je trouve ça très amusant de penser à ce réalisateur américain qui s'imaginait que, mais oui, bien sûr, allez-y Hollywood. Rentrez donc à Saint-Sulpice. Alors, ce qui m'a énervé un petit peu aussi, c'est que à Saint-Sulpice, il y a des merveilles absolues. C'est une église pour une raison étrange. Alors, nonobstant le Da Vinci Code, qui en effet lui a amené un petit peu de monde, est un peu mal aimée des Parisiens, alors qu'elle est très belle. Alors, dès l'entrée, vous avez cette inscription sur le fait qui date de la Révolution, sur le fait que cette église a été vouée au culte théosophique sous la Révolution française. Bonaparte qui a organisé un immense buffet avant de partir pendant la campagne d'Italie. Louise Michel y a harangué les foules en montant en chaire. C'est là que s'est mariée Camille Desmoulins avec Robespierre pour témoin principal. C'est là que s'est marié Victor Hugo également. Et alors, dès qu'on entre dans Saint-Sulpice, on est accueilli par des bénitiers géants, comme on n'en voit qu'à cet endroit dans Paris. Ce sont des tridacnes, des coquillages géants. Et ils ont été offerts à François Ier par la République de Venise. Et
chacune des valves pèse 100 kilos,
oui,
écrivez-vous.
C'est énorme. Hein. Et leurs pieds ont été sculptés par le sculpteur Pigalle. Et là, un des vrais secrets de Saint-Sulpice, à côté duquel il ne faut pas passer lorsqu'on rentre dans cette église, c'est que Delacroix passe 107 ans à peindre sa chapelle des Saints-Anges. Alors, il représente un arbre au tronc noueux. Et cet arbre, c'est très exactement le dessin du pied des bénitiers. Donc il a voulu faire un clin d'œil à travers le temps à Pigalle. Et si on passe à côté de ça, on est passé à côté d'un des secrets de Saint-Sulpice merveilleux.
Saint-Sulpice, église relativement récente, c'est ce qui nous trouble évidemment. On est tellement habitué à toutes les cathédrales et autres églises médiévales.
Oh la pauvre Saint-Sulpice, oui, elle a 7 architectes différents.
Et gigantesque, elle est plus grande que Notre-Dame.
Elle est plus grande que Notre-Dame, oui. Absolument. Oui.
À propos de Notre-Dame, j'ai promis aux auditeurs en commençant l'émission, mais on grappille, hein, c'est volontaire,
le livre est un grappillage, voilà, ce sont vraiment des vignettes.
Hein. Exactement, et c'est ce qui est très agréable. Vous ouvrez à n'importe quelle page et vous êtes sûr, en moins de 2 minutes, de trouver une chose choses que vous ne saviez pas. Je pense connaître assez bien Paris et un petit peu l'histoire. Et là, franchement, vous m'avez appris des dizaines et des dizaines de choses.
Ah, j'en suis très fière.
Je sens que je vais en entendre parler de ce que je viens de dire là à l'instant. On a promis aux auditeurs de parler de la girouette de Notre-Dame.
Oui. La girouette de Notre-Dame. Alors, très bien souvent, les Parisiens ignorent que Notre-Dame est une girouette. Mais pourquoi pas? C'est bien normal. Alors, c'est un coq girouette qui se trouve à 96 mètres du sol. Et en 1925, lorsqu'on a fait des travaux de restauration sur la flèche de Notre-Dame, eh bien, on en profite pour aller nettoyer un petit peu le coq et on découvre des poussières d'os dans le coq. Et donc, on a remplacé ces poussières d'os indéterminées par un petit reliquaire de forme oblongue qui contient une relique de Sainte-Geneviève. Alors, probablement de son gisant, car vous savez que malheureusement, les restes de Sainte-Geneviève ont été brûlés à la Révolution, et qu'il ne reste de la malheureuse sainte patronne de Paris qu'une phalange qui trône misérablement à l'église Saint-Étienne-du-Mont. Donc, une relique de Sainte-Geneviève, une relique de Saint-Denis, et une des 70 épines de la couronne du Christ achetée par Saint-Louis à Baudouin de Courtenay. Cet objet merveilleux que Baudouin de Courtenay, dernier roi de Jérusalem, avait gagé auprès de marchands vénitiens, parce qu'il va être un petit peu fauché le malheureux Baudouin. Et alors Saint-Louis est allé racheter cet objet car n'ayant pu conquérir Jérusalem, il avait décidé de faire de Paris un lieu de pèlerinage aussi important que Jérusalem ou Rome. Et pour cela, il lui fallait des reliques. Et notre cher et tendrement aimé grand roi Louis IX, eh bien, c'était un vrai gogo pour les reliques. Donc il a acheté tout ce qui se présentait. Il a même acheté du lait de Marie, un morceau de verge de Moïse, enfin absolument n'importe quoi. Et il avait donc fait l'acquisition de cette couronne qui a coûté plus cher que le coût de construction de la Sainte-Chapelle à elle toute seule. C'était vraiment plusieurs millions de nos euros, cette couronne.
Alors, des reliques sacrées aux reliques profanes, il n'y a qu'un pas de clair, si je puis dire. Vous nous parlez de toutes les reliques, évidemment, qu'on peut voir ou qu'on aurait pu voir à Paris. Alors,
Il y en a plein
exemples.
Partout, vous savez.
La jambe de Colbert.
Oui, alors là, elle serait dans son tombeau par quoi Coysevox. Mais bon, la jambe de Colbert, ce n'est pas la plus intéressante. Moi, comme je suis extrêmement
le plus
républicaine.
C'est le crâne de Descartes dont on a parlé ici, d'ailleurs.
Le crâne de Descartes est très intéressant, mais il y a aussi le cœur de Voltaire. Et moi, ce qui me fait très plaisir, comme républicaine, c'est de savoir que je suis propriétaire de 1,65 millionième du cœur de Voltaire, car ce cœur a été pris dans une querelle testamentaire entre les héritiers de Voltaire, Villette, le fils du marquis de Villette, et le monseigneur de Drebrézé. Alors imaginez-les, ils sont présentés devant les tribunaux et demandaient la garde du cœur de Voltaire, comme aujourd'hui dans un divorce, on demanderait la garde du chien. Et à tel point que la querelle s'envenimant, eh bien le ministre de l'Instruction publique, Victor Duruy, est intervenu, a dit écoutez, ça suffit, puisque c'est comme ça, ce cœur, je le déclare, bien national. Il se trouve donc aujourd'hui dans le socle d'une statue de Voltaire par où dont dans l'escalier d'accueil de la Bibliothèque nationale rue de Richelieu. Et au même moment, le cerveau de Voltaire, qui lui avait été conservé par Mitoire, l'apothicaire qui avait procédé à son autopsie, eh bien, il avait conservé comme trophée le cerveau dans du formol. Personne n'en voulait. Il a essayé de le fourguer à l'Académie française d'académiciens. On leur propose toutes sortes de trophées organiques de ce genre. N'en voulait pas. Et finalement, il a réussi, au début du XXe siècle, à l'échanger à l'administrateur de la Comédie française contre deux fauteuils d'orchestre gratuits pendant 20 ans. Et moyennant quoi, le cerveau de Voltaire achève de se dessécher dans le socle de la même statue d'Oudon qui contient le cœur, à quelques mètres d'intervalle, puisque rue de Richelieu, Bibliothèque nationale et Comédie française sont très proches. Et donc, cœur et cerveau se trouvent ainsi contenus dans des réceptacles assez proches, sinon que l'un est en plâtre et l'autre en marbre. Mais en tout cas, les abatis de Voltaire se réunissent petit à petit.
Le cervelet de Buffon est quant à lui dans le socle de la statue à son effigie devant la grande galerie de l'évolution au Jardin des Plantes, dont on parlait il y a un instant. Et vous nous dites que le cerveau de Gambetta, dont on parlait il y a quelque temps, se trouve...
Il est au musée Orfila, me semble-t-il, qui ne se visite plus. Ça,
au musée Orfila, oui, voilà, c'est ça.
Oui, mais son cœur est dans un morceau de pain des Vosges qui a été creusé dans une urne au Panthéon. Son œil est au musée de Castres, car vous le savez, Gambetta était borné. Ne me lancez pas sur les reliques,
non, on va
car
même
hélas,
vous...
j'ai acquis une compétence en la matière qui à la fois me surprend. J'en suis la première surprise, mais c'est assez croquignolé, en effet.
Je vous arrête même, Clémentine Portet-Kaltenbach, puisque nous sommes arrivés au terme de cette émission. l'émission Les Secrets de Paris. C'est publié chez Vuibert. Et puis nous retrouvons, nous, à la télévision, dès mercredi prochain pour parler de Meyerling. Là encore, ce sont des reliques qui ont beaucoup fait parler d'elle. Merci Clémentine.
Merci Franck.
Bonjour Elena Morna.
Bonjour Franck. Alors après les secrets de Paris, nous allons parler des secrets du désir féminin. Je suis sûre que vous en connaissez un rayon, mais pas tout. Et on va vous révéler justement pourquoi ce désir va et vient. Vous avez des questions, c'est toujours le 39-21 et c'est toujours 34 centimes d'euros la minute. Vous pouvez aussi, peut-être un peu plus discrètement, témoigner sur europe1.fr. A tout de suite.
Merci Elena. À demain Julia.
Avec Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.